Alors, le premier point, je vais... donc, on va appeler... ce que je vais appeler la condition ou la condition chrétienne des sciences modernes. Première chose, il y a ce qu'on pourrait appeler un changement de paradigme. Qu'est-ce qui est premier chez les anciens ? Les anciens, ce qui est premier, c'est précisément le cosmos. Alors que là, ce qui est premier, c'est Dieu lui-même. La référence ultime pour le païen, ça sera toujours le cosmos. Ça sera la physis elle-même, la nature. La référence ultime pour le juif ou le chrétien, ou même d'ailleurs le musulman, c'est Dieu. De telle sorte qu'on passe de ce que, je reprends une terminologie de Rémi Brague, d'une primauté de la sagesse du monde à une primauté de la loi de Dieu. Chez les païens, vous ne pouvez pas dire que le ciel et la terre vont passer, c'est le cosmos la référence ultime. Mais qu'est-ce que dit le Christ ? Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Ce qui est premier, ce n'est pas la contemplation de la nature, c'est d'abord la réception de la loi divine. Je parle du point de vue de l'ordre de... ontologique, pas dans l'ordre de la connaissance. On commence par connaître la nature, puis on va vers Dieu. Mais malgré tout, ça reste. Encore que c'est Descartes, vous voyez. Mais vous voyez, il y a cette primauté, la référence ultime, on n'a pas à la chercher comme un principe qui serait un principe de la physis. Il y a une révélation, il y a une loi divine qui est au-delà du cosmos, qui est plus fondamentale que le cosmos. Et ça, c'est un point... qui est indéniable, de telle sorte que on peut regarder la nature avec une sorte de distance, une sorte de hauteur. Et c'est pour ça que, vous voyez, quelqu'un comme Julien Laposta dira « Mais ces chrétiens, ce sont des athées. Ils sont athées parce qu'ils méconnaissent la divinité du monde, la divinité du cosmos. » Et il nous propose d'imiter le Christ ou d'imiter Dieu, alors qu'il s'agit d'abord d'imiter le cosmos, le lieu de l'ordre, de l'harmonie, le lieu de notre origine, le lieu de notre naissance, c'est la nature, c'est pas... C'est, vous voyez ? Et alors on pourrait dire qu'il y a une sorte de court-circuitage de la part des chrétiens qui remonte jusqu'à Dieu et qui ne... sans nécessairement passer, on pourrait croire, par le cosmos. Donc ça, c'est le point fondamental. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas dire simplement imiter la nature. On n'est plus dans une imitation de la nature ou dans une imitation du cosmos pour penser la sagesse. Il y a quelque chose qui transcende la nature. Et Heidegger dira, à cause de cela, le règne actuel de la technique vient du christianisme. Vient de quelque chose qui apparaît déjà chez les Grecs, mais que le christianisme va pousser à un point extrême. Pourquoi ? Parce que l'être de la nature, écoutez-moi bien, est subordonné à la volonté divine. S'il y a des choses, c'est parce que Dieu l'a voulu. Et dès lors, qu'est-ce qu'organise la modernité ? Eh bien, ce qui est déjà dans le christianisme, une primauté de la volonté sur l'être. Ce qu'on verra d'ailleurs chez les nominalistes, chez Occam, etc. Théologie nominaliste va primauté de la volonté sur l'être. Ça existe parce que quelqu'un le veut. Or, qu'est-ce que c'est que le règne de la technoscience aujourd'hui, c'est l'être. Non, c'est pas ça qui compte, c'est ma volonté. Et je vais faire apparaître des choses selon ma volonté. Vous voyez ? Une primauté de Dieu sur la nature va imposer, d'après Heidegger, une primauté de la volonté sur l'être. Et dès lors, il va y avoir cette idée que le règne technologique, qui était le règne de l'efficience, de la volonté, de telle sorte que l'être, la nature, l'être tel qu'il est donné, n'est plus qu'un stock à disposition de ma volonté, vous voyez, un stock d'énergie et de matériaux, aurait son origine dans ce renversement métaphysique qui se joue, dans ce changement de paradigme métaphysique qui se joue avec la révélation judéo-chrétienne. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on peut soutenir cette thèse-là? Non. Parce que c'est précisément l'inverse. Savoir que la nature est voulue par Dieu, c'est justement ce qui lui donne, au-delà de tout ce que je pourrais en faire, un ordre que je dois respecter. On pourrait très bien inverser la thèse de Heidegger et dire « c'est pas un primat de la volonté sur l'être, parce que Dieu est celui qui est », mais montrer que l'être fini, dans son ordre, dépend d'un être transcendant, et que cet être transcendant garantit à la fois l'ordre du monde fini, mais en même temps la responsabilité de l'homme comme couronnement de la création à l'égard de cette création. Vous comprenez ? Et dès lors, bien sûr, on n'est plus dans le monde grec où nous sommes des imitateurs de la nature, on devient responsable de la nature, on devient les intendants de la nature, mais d'une nature qui nous est quand même donnée par Dieu et donc que l'on doit, dans ce sens-là, respecter. Donc il y a un déplacement. On n'est pas simplement les disciples de la nature, on n'est pas les disciples de la nature, on est les disciples du Christ, mais à travers cela, on devient responsable pour la nature. Vous voyez ? Mais c'est vrai qu'il y a un changement de paradigme, on ne peut pas le nier. Et donc, c'est ça qui va faire l'apparition aussi, vous voyez, des sciences modernes. Alors, à partir de là, il va y avoir deux choses, on les a vues, ça c'est vraiment le principe de base. Alors je vais le passage comme référent ultime du cosmos à Dieu. Deux choses, la première donc, qui est la deuxième ici, c'est que dès lors il y a une foi dans la raison et finalement l'intelligibilité du monde. Quand Galilée dit « Le grand livre de la nature est écrit en langage mathématique », avant même l'affirmation du langage mathématique, il y a l'idée que la nature est comme un livre. Et ça n'est possible que parce qu'il y a un livre qui est un livre qui contient une révélation. Et c'est penser la nature comme un livre, c'est de se dire finalement que la nature aussi est parole et qu'elle est parole de Dieu. Dieu nous parle sur un mode naturel, à travers la nature, à travers les événements, et sur un mode qui est celui de proprement de la révélation à travers les Écritures saintes, la tradition. D'accord ? Mais dès lors, je vais regarder la physis comme un logos. La physis est encore un logos. Et donc, il y a une connivence entre ma raison et la raison divine, entre le logos qui est en moi et le logos divin, le logos qui est dans la nature, qui a été mis par Dieu. Et une phrase comme « au commencement » ou « au principe était le logos », ça veut dire que il y a du logos dans la nature et que je vais le chercher. Et donc la nature est plus intelligible que ne le pensaient les anciens. Et que le monde sublunaire est aussi un lieu d'intelligibilité, mais qu'on n'a pas été assez loin dans la contemplation de cette... On s'est laissé piéger par les contingences, si vous voulez, qu'on voyait dans ce monde. Et vous voyez, par exemple, Galilée fait le pari qu'on peut faire une lecture mathématique de phénomènes qui apparemment ont l'air complètement contingents. La chute des corps. Vous voyez un corps qui tombe, une plume, un corps humain. Vous voyez, vous lâchez une plume, vous lâchez un corps humain, il ne tombe pas exactement à la même vitesse. Et les dommages sont plus grands pour le corps humain que pour la plume, d'ailleurs, qui atterrit sans dommage. C'est assez étonnant. Mais en même temps, le Galilée va dire, d'accord, donc chaque corps a sa propre appétence de la terre, il ne va pas aller au même rythme. Voilà ce que prétendrait Aristote, vous voyez. Mais il dit, non, il doit y avoir une loi très simple. Il doit y avoir une loi très simple. Mouvement rectiligne uniforme avec le principe d'inertie, il suppose une loi beaucoup plus simple, vous voyez, que tout ce que pouvait imaginer Aristote, des mouvements orientés de chaque nature. Il essaye de désolidariser la notion de mouvement de la notion de nature de chaque espèce. Mais surtout, quand il va dire, je vois quand même que ça va plus vite. Donc je vais dire, il y a une régularité comme le mouvement rectiligne uniforme, mais je vois bien que ce n'est pas un mouvement uniforme. Alors je vais dire, je vais faire le pari, parce que Dieu, il a utilisé des lois simples, il est intelligent, il nous parle, et il ne nous méprise pas, il n'est pas loin de nous. Ce n'est pas comme la cause première chez Aristote, vous voyez, c'est un Dieu qui nous parle, qui s'adresse à nous, donc il s'adresse aussi à nous par la nature. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas que c'est un mouvement uniformément accéléré? Ça, c'est simple comme loi. Et donc, il fait un pari mathématique sur la nature. Mais au nom de quoi fait-il ce pari? Vous vous rendez compte que pendant des siècles, on ne l'a pas fait, ce pari. Ce n'est pas que les mathématiques nous manquaient. Vous voyez? C'est qu'il y avait quelque chose qui n'était pas dans notre esprit, à savoir que le monde sublunaire, comme nous faisons l'expérience de changement, de corruption, de génération, d'instabilité, etc., on disait que ça ne répond pas aux mathématiques. Mais là, il va dire, si, ça y répond aussi. À partir d'un acte de foi dans la raison. D'un acte de foi qui est que, voilà, il y a une parole dans la nature. Vous voyez? Donc ça, c'est un point fondamental. Oui?
Est-ce que chez les scientifiques, à l'époque, il y a une conscience de la déconnexion avec une pensée ancienne? Ou est-ce que c'est comme dans les arts? On a l'impression de revenir à l'antique, mais en fait, en étudiant l'histoire de l'art, on se rend compte que c'est un retour à l'antique un peu fantasmé, en fait.
Oui, alors, vous avez raison de dire qu'il y a ce processus-là, qu'on pourrait appeler le processus des révolutions. Quand on est révolutionnaire, à la fois il y a du neuf, mais pour garantir cette nouveauté, on va lui chercher une autorité dans le passé. Bon. La Révolution française, c'est la Révolution française, mais c'est aussi la reconstitution fantasmatique d'un retour à la Rome antique, à la République latine, etc. Vous voyez ? Bon. Donc c'est sûr qu'on va chercher des garanties avant, mais il y a quand même l'impression chez Galilée de dire du neuf par rapport aux anciens, mais de le dire au nom de la foi aussi. C'est ça qui est très étonnant. Et quand vous lisez tous les textes de Galilée, il y a cela. Et chez Descartes aussi. Pourquoi tout serait chez Aristote et chez Platon alors que nous avons, vous voyez, quelque chose qui est arrivé. Alors ça pose d'énormes problèmes. Hein. Je ne suis pas en train de... D'abord, je vous essaye de vous montrer ce qui est en jeu ici, hein, Mais ce que je vous dis ici est indéniable. S'il y a un changement du rapport, et c'est ça qui est à l'origine des sciences modernes. Et ce n'est pas pour rien que les pères fondateurs sont des grands catholiques, des dévots vraiment, que la génétique, c'est un moine qui en est à l'origine, que la théorie du Big Bang, c'est un prêtre, qu'il y a quand même quelque chose, une disposition. Donc c'est pour ça, ne nous laissons pas affecter par le révisionnisme je vous avais dit, des scientifiques athées, qui ne forment d'ailleurs qu'une portion, si vous voulez, d'abord du monde scientifique, il faut quand même le reconnaître. Vous avez eu Dominique Lambert qui était là, c'est un grand scientifique qui a travaillé sur le dessin des mâchoires de crocodile. La mathématisation de la naissance du dessin des mâchoires de crocodile, différente du dessin du dos qui est régulier, et qu'il a fait en faisant un rapprochement d'équations mathématiques avec le craquellement de la boue. Il vous en a parlé un petit peu, de la boue qui sèche. Et bon... Mais on voit bien que chez lui, voilà, cet élan-là vient de, voilà, d'une impulsion qu'il y a cette intelligibilité du monde. Vous voyez ? Qui nous est donnée par Dieu. Oui, Ferdinand.
Est-ce que vous pouvez nous rappeler le nom de ce généticien, le moine généticien ?
Ah ben c'est Mendel. Grégor Mendel. Enfin, frère Grégor. Voilà. Le type, il allait chanter les psaumes, puis après, il allait s'occuper de la génétique des petits pois, quoi. Mais ça, c'est chrétien. Un chrétien, c'est quelqu'un qui sait que dans le petit pois, il y a une parole de Dieu. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que, bon, ADN, qui sont les lettres du paradis, vous savez, hein, Aleph, Dalet, Nun, Eden, bon. Oui, bon, ça fait ouvrir la bouche à Domiti. C'est des conneries, hein, ce que je dis. Hein. Ça, c'est le genre de reprochement que faisait un comique français qui imitait très bien le général de Gaulle, qui est mort, qui s'appelait Henri Tizot. À la fin de sa vie, il faisait que des spectacles, vous savez, chrétiens, kabbalistes, avec tous ces rapprochements entre les sciences et les saintes écritures. Bon, un truc un peu douteux, quand même. Hein. Mais ce que je veux vous dire, c'est que l'idée même de chercher une écriture du vivant montre bien qu'on est dans la religion où les écritures ont une place fondamentale. Bon, peut-être qu'on a oublié qu'il y avait l'hégémonie de l'esprit, là, peut-être que c'est ça. Et qu'on a cru que le christianisme était la religion du livre. Alors quelle est la religion? La parole vivante. Mais vous voyez, cette place du livre, cette place, malgré tout, il y a une place importante du livre. Et quand Galilée dit le grand livre de la nature, voilà, d'où ça vient aussi. Alors, sur ce deuxième point, je pense que j'ai été clair. J'aborde le troisième, et puis parce qu'il va falloir conclure. Donc, troisième point, en lien avec cela, eh bien, cette sorte de... Oui, cette primauté, on pourrait dire, de la charité, est donc quelque chose qui est de l'ordre de... ce qu'on peut appeler l'amour du prochain. L'amour du prochain qui nous pousse vers une science utile, utile à la vie. Alors bien sûr, on peut critiquer l'utilité, on peut critiquer l'utilitarisme sans doute, mais c'est important qu'il y ait des choses utiles. Vous avez des enfants qui sont malades, vous voulez les soigner, les guérir. C'est pas chez Aristote que je vais trouver les remèdes. Donc la médecine moderne, oui, bah, y a quelque chose quand même. La mortalité infantile, ça a été... Alors, bien sûr, hein, on peut faire toutes les critiques qu'on veut par la suite. Vous savez que la mortalité infantile, c'était incroyable. Il y avait très peu d'enfants qui survivaient à cause de diverses raisons. Et que l'augmentation, vous savez, de la longévité, de l'espérance de vie, en réalité, est surtout liée à la disparition de la mortalité infantile. Parce que quand vous faisiez un calcul d'espérance de vie, forcément, vous comptiez ceux qui mouraient tout jeunes, à la naissance. Donc, faire attention, on n'a pas tellement augmenté, hein, on pourrait dire, la, la longévité absolue de l'homme, c'est un rapport de proportion qui a changé. Hein. Et donc, vous voyez, ça c'est très, très important de comprendre qu'il y a quelque chose où les enfants mouraient en masse. Alors, ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment où la mortalité infantile disparaît, avec cet excès-là, ça va créer un changement de mentalité qui est aussi néfaste. Ça, c'est ce qu'a très bien montré Paul Yonnet, grand sociologue, qui maintenant est mort. Je crois que son dernier livre est un livre sur Louis-Ferdinand Céline. Donc, vous voyez, ça le rend encore plus attachant. Il a écrit un livre qui s'intitule « Famille 1 », seulement le premier volume, et un livre dont le sous-titre est, enfin, ou le titre principal est « Le recul de la mort ». Un livre prodigieux qui explique qu'à partir de la disparition de la mortalité infantile va naître l'apparition du projet parental, de l'enfant comme étant désormais planifié. Autrefois, l'enfant, c'était un survivant, donc déjà, c'était pas mal qu'il vive. Vous voyez, on n'était pas en train de projeter sur lui tout un futur, tout un truc. Vous voyez, maintenant, l'enfant, ben, on peut choisir à quel moment. On sait qu'il y a cette certitude que, voilà, quand il apparaît, il ne va pas mourir. C'est d'ailleurs pour ça que des femmes peuvent avorter avec cette croyance qu'elles pourront avoir un enfant quand elles veulent, par exemple. Sans se dire, bah, tiens, si j'ai la vie, peut-être que ça ne marchera pas la prochaine fois. Vous comprenez? Et donc, à partir de cela, on a fait disparaître la mortalité infantile, naturelle, enfin... le mot naturel n'est pas juste, mais vous voyez ce que je veux dire, la mortalité infantile involontaire, mais apparaît la notion de projet de l'enfant qui doit être désiré, de l'enfant qui doit être voulu, de l'enfant qui, quand je veux, comme je veux, etc., vous voyez ? Et donc apparaît, comme s'il y avait une sorte de mort incompressible des enfants, une mortalité infantile volontaire, artificielle, avec l'avortement. C'est très étonnant. Bon, là, on trouve bien toutes les ambiguïtés de la technoscience, si vous voulez. Donc, mais l'intention initiale n'est pas une intention mauvaise. C'est même une intention profondément chrétienne, réduire la mortalité infantile. Maintenant que de cela puisse naître un changement de mentalité de telle sorte qu'on projette l'enfant comme désormais quelque chose qui nous appartient, que l'on peut même fabriquer, la vie comme quelque chose que l'on maîtrise désormais, etc. Vous voyez, c'est une conséquence, mais ce n'est pas une conséquence forcément essentielle ou nécessaire, vous voyez. Mais ça a conditionné cela, ça c'est certain. Donc, pour conclure, ces trois choses. La première chose, ce changement de paradigme où le référent ultime n'est pas dans la nature, donc il ne s'agit plus simplement d'imiter la nature, mais dans la loi de Dieu, ce qui nous donne une certaine transcendance par rapport à la nature. Voyez, nous sommes dans la nature, mais nous ne sommes pas entièrement de la nature puisque nous avons cette révélation divine qui nous fait voir les choses presque, je dirais, à partir de Dieu. Et on dira, le ciel et la terre passeront, mais les paroles de Dieu ne passent. Donc c'est la parole de Dieu qui devient première par rapport à la physis. Cela peut être compris, peut être interprété comme une sorte de domination méprisante de la nature, mais comme je vous l'ai dit, ça nous renvoie en réalité à notre responsabilité. Deuxième point, les phénomènes naturels perçus comme des paroles de Dieu ou comme un autre livre de révélation naturelle. Dès lors, une fois en la raison, une fois que le logos humain est capable de lire des lois très simples, voire même des lois mathématiques dans la nature, dans les phénomènes naturels, ici-bas, et ça aussi c'est conditionné par le christianisme, le catholicisme de Galilée et de Descartes. Et enfin, troisième point, l'amour du prochain, cette primauté de l'amour du prochain qui fait que la science n'a pas à être que contemplative. Elle doit être opérative, elle doit chercher des choses utiles à la vie pour la santé des hommes. Et vous voyez, à partir de là, vous voyez un conditionnement profondément chrétien ou judéo-chrétien des sciences modernes. Et ce n'est pas pour rien que c'est dans l'ère, je dirais, catholique, que va apparaître cette science-là. Alors, il y a un point que je n'ai pas mentionné, je vais juste... c'est finalement le point qui est aussi un point de nos arguments, enfin, de notre thèse centrale, c'est aussi les modifications de la technique. Il ne faut pas oublier qu'apparaît la lunette astronomique. Par exemple, alors est-ce que ça vient du christianisme, c'est conditionné par le christianisme, ou alors est-ce que la technique a un devenir propre? Bon, il reste que la lunette astronomique ou le microscope nous fait voir autre chose que ce qu'on voit à l'œil nu. Et dès lors, c'est l'observation, par exemple, des phénomènes sur le Soleil et le fait qu'il y a, le Soleil n'est pas absolument stable, il y a de la génération et de la corruption, il y a de la... Donc il va dire... Galilée va dire, attention, il n'y a pas un monde supralunaire et un monde sublunaire, il y a les mêmes lois gouvernent le monde tout entier. Ça vient de la foi dans un Dieu créateur qui est le créateur d'un monde unifié. Ça vient de là, vous voyez, ça peut venir de là. Mais il y a aussi le phénomène de la découverte, de l'évidence sensible qu'au-delà de la Lune, il y a aussi de la génération et de la corruption, ce que ne croyaient pas les anciens. Vous voyez, les anciens n'imaginent pas qu'une étoile puisse disparaître. Alors que pour nous, c'est une évidence. Mais imaginez le poids de cette évidence dans l'ordre symbolique, la disparition d'une étoile. Bon. Mais ça n'est pas une pensée des anciens. Voilà. Alors, Julien, oui.
J'avais juste une question sur le texte de Descartes. Vous avez pointé quelques pierres d'achoppement potentielles pour le futur transhumanisme. Mais est-ce que, quand dans les deux buts que Descartes peut attribuer à cette philosophie pratique, on a beaucoup parlé de la santé, mais le premier, une infinité d'artifices qui ferait qu'on jouirait sans aucune peine des fruits de la terre, est-ce que déjà en soi, il n'y a pas une antithèse avec, enfin, une sorte de négation du péché originel là-dedans ?
Oui, c'est une très bonne question. Remarquez que la nature, c'est... ce qui n'est pas seulement à désirer pour l'invention d'une infinité d'artifices qui ferait qu'on jouirait sans aucune peine des fruits de la terre. Alors, pas seulement, comment l'entendre, hein? Est-ce que ce serait d'abord cela, puis... Ou alors, pas seulement en disant, c'est pas ça l'essentiel, ce qui est essentiel, c'est la santé. Vous voyez, il y a deux manières de l'entendre. Et vous voyez, on est dans un travail d'interprétation, dans une herméneutique du texte de Descartes, parce qu'on ne peut pas savoir exactement... Voilà ce qu'étaient ses intentions quand il écrit ce texte. Aujourd'hui, on le lit à partir de nos problèmes contemporains, donc on est très attentif à cela. Alors, qu'est-ce que ça veut dire jouir des fruits de la terre de telle sorte qu'il n'y a plus... Voilà, sans effort, d'une certaine façon. Je ne sais plus quelle est l'expression, c'est ça ?
Il faudrait qu'on jouirait sans aucune peine.
Sans aucune peine. Et on a l'impression qu'il y a effectivement l'idée de renverser l'ordre qui s'instaure après le péché originel où tu travailleras à la sueur de ton visage, voilà, et où la terre, le travail de la terre est un travail marqué d'une peine. C'est vrai que c'est un texte qui est problématique ici. Il n'y a pas tout dedans, il n'y a pas toutes les nuances, mais je pense qu'aujourd'hui, enfin, vous voyez, ça ne veut rien dire ce que je veux dire, mais Descartes qui serait là aujourd'hui relirait son texte et dirait, ben tiens, je n'avais pas pensé aux conséquences d'une telle parole. En revanche, Bacon, lui, y pense. C'est-à-dire le fait qu'il soumette l'ordre de la science à la production du confort. Et lui, c'est lui qui va donner un nouveau sens au mot confort, qui n'avait pas du tout ce sens d'ailleurs moderne. Hein. C'est lui qui va accorder ce sens moderne de confort matériel. Hein, parce que le confort, c'était d'abord la confortation spirituelle, hein, donner du réconfort, c'était ça. Hein. Et là, vous voyez, il y a effectivement un passage vers autre chose avec l'idée qu'on va créer un monde nouveau, un monde où tout va être facile, avec ce projet de réaliser le paradis sur la terre, par les sciences. Mais je pense que chez Descartes, c'est beaucoup plus nuancé, voilà. Et que maintenant, voilà, il y a de tels... Ils sont, ils, C'est quand même incroyable, alors même qu'il n'y a pas encore grand-chose à son époque, mais il est déjà conscient quand même des possibilités vertigineuses, d'une certaine façon, de cette science moderne. Oui, Gilda ? Dernière question, parce qu'après, il faut vraiment qu'on arrête.
Quand Galilée dit que l'intelligibilité du monde tient à une forme mathématique, il fournit quand même tous les instruments à une rupture avec une métaphysique chrétienne. Parce que c'est avec une vision comme ça qu'on aboutit à des religiosités cosmiques à la manière d'Einstein. Et finalement, c'est la porte ouverte sur la tête.
Alors, est-ce que l'idée de dire que la nature se lit sous une forme mathématique, on s'ouvre à l'athéisme? En tout cas, ce n'est pas du tout ce que Galilée avait en tête. Si c'est une conséquence, c'est une conséquence qui lui échappait complètement. La chose qu'on pourrait dire, c'est que, effectivement, la science galiléenne, comme science mathématique, fondée essentiellement sur le principe d'inertie, est une science qui va ignorer le mouvement comme ayant une efficience liée à une finalité. Et donc, on est dans un monde qui est un monde mécanique, mais sans finalité. Donc, c'est la disparition de la finalité, finalement, qui est un problème. Une disparition, ou en tout cas, une finalité qui est réduite à quasiment rien. L'autoconservation, le principe d'inertie, vous voyez. Bon. Alors, je dirais deux choses. Quand Descartes, lui, affirme le mécanisme, il affirme, par exemple, les animaux comme des machines divines. Donc, d'une certaine façon, pour Descartes, même s'il n'utilise jamais cette preuve-là, d'ailleurs, la preuve par l'ordre de la nature, une preuve par l'idée de parfait en nous, plutôt, mais mal, parce que, voilà, pour voir l'ordre dans la nature, il faut d'abord que Dieu existe. C'est... mais, si vous voulez, je dirais que voir un ordre mécanique, voir un... Voilà, ça permet de pour eux d'abord, de reconnaître la présence de Dieu. Voir un ordre mathématique, pour eux, c'était la reconnaissance d'une présence de Dieu. Et il ne faut pas oublier que Newton, même s'il n'est plus très catholique, reste quand même une sorte de mystique un peu folle-dingue qui pense qu'à partir du principe de l'attraction universelle, il peut même expliquer le livre de l'Apocalypse, vous voyez, bon. Mais il est complètement déiste. C'est un déisme rationaliste, etc., tout ce que vous voulez, mais il est encore du côté, c'est pas de l'athéisme. Alors, la vraie question qu'il faudrait se poser, c'est de se dire, cette science, si elle se constitue comme exclusive de toute pensée de la finalité, donc si elle prétend avoir le dernier mot sur le rapport à la nature, là, c'est sûr qu'elle conduit à l'athéisme. Vous voyez ? Mais si elle reconnaît sa validité dans son domaine propre, à ce moment-là, elle ne conduit pas en elle-même à l'athéisme. Ce qui conduit à l'athéisme, c'est plutôt le fait que cette science pense être la totalité de la connaissance certaine, donc toute la science. Et ça, c'est une erreur.
Mais il y a aussi quand même le fait que ce soit une forme mathématique, parce que c'est quand même une affirmation assez... qui sort de nulle part, de dire que la forme des changements ou la forme des êtres est qu'il y a une antériorité ontologique mathématique.
Oui, alors, bon, je ne sais pas si c'est pensé comme ça par Galilée, vous voyez, il ne va pas aussi loin, il ne parle pas d'antériorité ontologique des mathématiques sur la forme vivante. Mais, en revanche, ça rejoindrait la question qui a été posée par Jean sur le retour, la confirmation. Il faut bien voir que ça fait partie de l'idée d'une intelligibilité du monde, d'un logos dans les formes vivantes, même ici-bas. Et c'est en lien aussi avec un rapport très ancien, enfin, dans le pythagorisme, il y avait quand même cette idée que les mathématiques renvoyaient à un ordre mystérieux et divin. Alors, je dirais que c'est pas vrai, enfin, je crois que c'est faux, et à la limite, je pense que mon ami Laurent Laforgue, médaille Fields, dirait la même chose, de croire que le problème, c'est les mathématiques ou la mathématisation du monde. Si elle devient exclusive, ça pose un problème, mais parce qu'on passe à côté de choses...
Mais elle le devient avec Galilée.
Ah non, c'est pas exclusif chez Galilée.
Puisqu'elle se place entre la réalité et Dieu.
Le monde est écrit en langage mathématique. Quand même, le monde, c'est tout ce qu'on connaît. Donc c'est vrai que c'est une idée d'exclusif, non ?
Oui, mais ce n'était pas dans l'esprit de Galilée, parce qu'il y a des choses qui dépassent complètement cet ordre des phénomènes naturels. Il le dit lui-même dans sa lettre à Christine de Suède. Je pense qu'il ne faut pas forcer les choses. Et en plus, si vous réfléchissez quand même un peu, les mathématiques sont quand même l'évidence d'un ordre qui serait un ordre que l'homme n'a pas, enfin, qui n'est pas lié au hasard, purement au hasard. Donc la science mathématique, c'est pas la mathématisation du réel pose des problèmes aujourd'hui, parce qu'on est arrivé à quelque chose qui est uniquement quantitativiste, avec des débouchés commerciaux. Mais je crois que faire peser tout le problème du côté et de la quantité et de la mathématisation, c'est une erreur. Parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, je vous en ai déjà parlé, le drame de la science, de la technoscience, ce n'est pas la science et la technique, c'est le règne du management, donc d'un certain type de gestion du monde, qui est justement ce transfert de certains principes de technoscience, mais qu'on voudrait transférer sur les rapports humains, sur les rapports notamment de production, en lien avec l'idée de l'argent qui va nous permettre de profiter, etc., enfin de faire du profit. Et ça, il faudrait voir une rupture peut-être du côté de Taylor d'abord. Là, il y a quelque chose qui se joue qui est très étrange. Mais vouloir absolument dire que le problème, c'est dans les mathématiques, non. Michael Denton, je vous en avais parlé dans Évolution, une théorie en crise, critique du darwinisme, dit que c'est à partir de Darwin où on se sert vraiment de la science comme un principe d'athéisme. Et encore d'un Darwin mal compris, hein, ou surinterprété, ou... mais à cause du hasard, à cause de la logique hasard, sélection naturelle. Mais que dans la physique newtonienne, il y a encore cette idée d'un dieu, mais d'un dieu qui naît, alors là c'est le problème, géomètre. Et que ça enlève cette question du rapport personnel à Dieu. Peut-être que le vrai problème, ce n'est pas l'athéisme, c'est un déisme qui devient trop cérébral, et que devant la puissance et les potentialités de cette nouvelle méthode découverte, on devient complètement obnubilé par ça, et donc on va aller vers ça, voilà. Mais je ne dirais pas que c'est en soi, parce qu'il y a une efficacité de ces sciences, qu'elles posent un problème, qu'elles induisent un renversement, mais je ne vois pas de lien absolument nécessaire de l'apparition de la science cartésienne ou galiléenne et de l'athéisme ou de la déchristianisation. Parce que si c'était cela, ce serait faire une confusion, justement, entre les ordres. Et croire que c'est, d'une certaine façon, ce serait tomber dans la même erreur que les athées, de croire que tomber dans un scientisme, c'est-à-dire de croire que c'est la science qui détermine notre rapport au divin, mais pas du tout.
Non, mais quand on dit que c'est cette vision, c'est une vision du monde, c'est pas la science, c'est une vision scientifique.
Alors voilà, mais est-ce que chez Galilée c'était absolument une vision du monde ? J'en sais rien. Ça se voulait pas toute la vision, puisque Galilée est un lecteur de saint Augustin, de Tertullien. Oui, mais alors en quoi le platonisme serait, là encore, vous voyez, on dit Galilée a abandonné Aristote, il est revenu vers Platon, donc c'est ça qui serait la cause de... Mais en quoi le platonisme serait l'ennemi aussi du christianisme ? Les pères grecs de l'Église sont plutôt platoniciens, ils ne sont pas aristotéliciens. Hein. Donc il faut faire attention. Je sais bien qu'en disant cela, je vais contre une interprétation générale qui est assez courante, que j'ai moi-même soutenue, hein, je dois le dire, dans le passé. Donc je comprends ce que vous êtes en train de dire. Mais je crois que je me suis trompé. Voilà. Et je crois que c'est pas que cette lecture-là pose quand même un problème. Et donc moi, je donnerai un rôle à la technoscience, une place au sein même, vous voyez, ça a apparu dans une chrétienté, donc vous voyez, un lien avec le christianisme. Maintenant, la question, c'est la question de notre responsabilité, de la limite qu'on lui impose. Mais voilà, elle a une place, il faut lui la remettre à sa place. Mais il ne faut pas lui dénuer une place, il ne faut pas la charger de tous les problèmes. Vous voyez, il y a quelque chose là, à mon avis, qui serait erronée. Mais bon, c'est votre sujet de mémoire, vous cherchez une thèse assez simple, en tout cas une démonstration assez simple, voilà, donc je suis désolé. Bon. On va s'arrêter là, merci.